Salut à tous et à toutes et bienvenue à Point de vue, Boris Chassagne qui vous accompagne pour cette prochaine demi-heure. Au sommaire, aujourd'hui, un médicament controversé serait prescrit dans les centres de soins de longue durée. Une citoyenne part en mission contre le Zyprexa olanzapine.
On commence par informer les citoyens. On commence par le bas. On va aller pour informer les gens pour qu'ils puissent garder un œil et protéger leurs aînés. Ça fait qu'ils vont être capables de se rendre au manoir ou à la foyer de soins ou aller à la pharmacie et demander à leur pharmacien, pharmacienne, quel médicament est-ce que mon oncle, ma tante es-tu? Et est-ce que je peux avoir les contre-indications?
L'artiste québécoise Cathy Foucault accomplit un vieux rêve et tourne en Alberta avec son spectacle « Mes bananes vertes ».
Ça parle d'une femme, d'une mère, d'une collègue, d'une amie, d'une personne qui un jour est tombée et qui a tenté bien que mal de se relever. C'est drôle, c'est touchant, c'est pathétique, tout le monde s'y retrouve.
Et grâce à notre périscope et radar professionnel, on effectue des arrêts de courte durée à Yellowknife, Penetanguishene, Halifax et Fermont.
Je vieillis un peu en âge. J'ose espérer qu'une relève va se manifester et continuer j'appelle ça un projet de vie communautaire. À travers les années, c'était presque toujours de maintenir un journal communautaire à Fermont. Puis finalement, je pense qu'on l'a fait plus que le maintenir. Il a continué sa mission d'information.
Bienvenue à Point de vue.
Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Une citoyenne du Nouveau-Brunswick s'insurge contre la surutilisation de médicaments qu'elle estime dangereux lorsque mal prescrits. Selon Paris Sudite, le Zyprexa olanzapine, normalement utilisé pour traiter les psychoses et la schizophrénie, serait selon elle largement prescrit dans les centres de soins de longue durée pour atténuer les effets de la démence et de la maladie d'Alzheimer. Madame Sudite se sent investie d'une mission et on l'écoute, même si Paris Sudite, qui effectue actuellement une tournée dans les bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick, n'est ni médecin ni une autorité en matière de santé publique. Elle en parlait d'ailleurs le 16 février dernier à la bibliothèque publique de Kedgewick au Nouveau-Brunswick, laquelle lançait sa tournée du mieux-être avec une session d'information offerte par Madame Sudite. Le Zyprexa olanzapine est dit, Madame Sudite, approuvé par Santé Canada, mais elle désire comprendre comment il est possible que la province du Nouveau-Brunswick continue à en permettre certains usages, tout en étant bien au fait des dangers qui y sont reliés. Paris Sudite en parle en qualité de simple citoyenne, elle à qui on a déjà prescrit ce médicament. Notre journaliste Maxime Gauthier lui a donné la parole à Saint-Quentin au Nouveau-Brunswick.
Un médicament psychotrope fait l'objet d'une controverse au Nouveau-Brunswick alors qu'il continue d'être prescrit dans les foyers de soins aux personnes souffrantes d'Alzheimer et de démence, alors que des études ont pourtant démontré les risques qui y sont associés. L'avocate de Saint-Quentin, Mme Paris Sudite, compte bien creuser l'affaire jusqu'au bout, elle qui a donné une séance d'information à ce sujet le jeudi 16 février à la salle du citoyen à Kedgewick.
Les médicaments psychotropes sont prescrits dans les foyers de soins, mais pour des diagnostics qui sont légales, dans le sens que Santé Canada a approuvé ces médicaments-là pour les diagnostics comme le bipolarisme, schizophrénie, tout ce qui est psychose. Fait que c'est une maladie mentale, mais il n'est pas approuvé par Santé Canada pour les diagnostics d'Alzheimer et ou de démence. Et ce qu'on appelle, c'est l'utilisation des prescriptions hors indication. C'est pas illégal de faire de la prescription hors indication. Ça fait que les médecins peuvent exercer leur discrétion et prescrire des médicaments psychotropes pour atténuer des symptômes de psychose chez les aînés qui souffrent de démence et d'Alzheimer, sauf lorsque c'est un manque d'éthique ou c'est un manque à la sécurité.
Zyprexa olanzapine, c'est le médicament psychotrope que Paris Sudite dénonce particulièrement, médicament qui a déjà fait l'objet de 3 recours collectifs. On écoute à nouveau Paris Sudite.
Dans ce cas-ci, je suis venue à Kedgewick pour parler d'un médicament psychotrope qui était le sujet de 3 recours collectifs en fait au Canada, un en Ontario, un au Québec et un en Colombie-Britannique. Zyprexa olanzapine, qui est encore prescrit aujourd'hui dans les foyers de soins pour les diagnostics d'Alzheimer et de démence. Et le problème, c'est que le Canada, les États-Unis, la Grande-Bretagne et d'autres pays en Europe, tels la France, il a été sujet de recours collectif dans tous ces pays-là et il est dangereux. Il cause de l'inflammation cardiaque, ce qui m'est arrivé. Moi, j'étais chanceuse, je n'avais que 42 ans et j'étais en forme, donc j'ai réussi à survivre. Mais malheureusement, il y a plusieurs aînés qui en sont décédés. Il cause l'inflammation cardiaque, des problèmes neurovasculaires, donc des strokes, des problèmes d'anévrisme au cerveau et ainsi de suite.
Pourtant, Santé Canada n'a jamais approuvé la prescription de médicaments psychotropes pour traiter l'Alzheimer et la démence. Et avec les études qui prouvent la dangerosité du médicament Zyprexa-olanzapine, Paris-Sudite n'y comprend tout simplement rien.
La science est claire, et c'est Santé Canada eux-mêmes, c'est leurs études scientifiques qui le disent. La science démontre que tu as 50 % à 70 % plus de chances de décéder en dans 30 jours d'avoir été mis sur ces médicaments-là. C'est un problème. Et lorsque la science est claire, j'ai de la difficulté à comprendre. Comment est-ce qu'on peut faire une analyse de risque et d'arriver à un jugement que les bénéfices outrepassent le risque de décès en dedans de 30 jours d'avoir été prescrit le médicament? Fait que je me dis, il doit y avoir d'autres solutions.
Maintenant, comment les médecins ont prescrit ce médicament en connaissant les risques associés? Paris-Sudite répond.
Les médecins me disent qu'ils le savaient, qu'ils prescrivaient un médicament qui était problématique et qui avait été le sujet d'un recours collectif. Bien, de trois recours collectifs, en fait, mais que ça a été jumelé en un, puis ça a été réglé hors cours en 2009. Elle m'a dit, on le savait. J'ai dit, OK, vous le saviez, mais comment ça peut se faire? Elle m'a dit, la province en est lavé les mains, Paris. Ils ont transféré la responsabilité de décider la discrétion de le prescrire ou non aux médecins. Ce qui veut dire que ça devient du cas par cas. Tu comprends, là? Lorsque Santé Nouveau-Brunswick décide, nous autres, ça, c'est pas notre responsabilité, ça devient la responsabilité de l'association des chirurgiens et des médecins du Nouveau-Brunswick. Ça veut dire que si un patient décède d'arrêt cardiaque à cause du médicament et que la famille finisse par découvrir que c'est le médicament qui a tué leur aîné, ils peuvent intenter une poursuite. Ça va être une poursuite contre le médecin. Le médecin, lui, est assuré, il y a des assurances. Donc, la compagnie d'assurance va dédommager, puis c'est un cas. C'est du cas par cas. Et ça, c'est si la famille découvre que c'est le médicament qui a tué leur aîné, là. On commence par informer les citoyens. On commence par le bas. On va aller pour informer les gens pour qu'ils puissent garder un œil et protéger leurs aînés. Ça fait qu'ils vont être capables de se rendre au manoir ou à la foyer de soins ou aller à la pharmacie et demander à leur pharmacien, pharmacienne, quel médicament est-ce que mon oncle ou ma tante est-tu? Et est-ce que je peux avoir les contre-indications? Fait que si on réussit à faire ça, puis monter des bases de données, possiblement on pourrait arriver à un moment donné où est-ce qu'on peut changer les politiques, changer les façons de faire. Parce qu'il y a d'autres options. Il en existe d'autres options que surmédicamenter les bourrées d'antipsychotropes qui causent des problèmes de santé, là. Il y a d'autres options, mais on ne se penche pas là-dessus. C'est trop facile de juste dire, ben, on va les calmer, puis ils vont être assis dans le fond de leur chambre, dans le foyer de soins, drogués, bien raides, avec des problèmes cardiaques, puis de l'insuffisance cardiaque, la difficulté à respirer, et ainsi de suite. C'est pas acceptable. Ça fait que c'est pour ça qu'on ouvre le débat. On va faire des discussions, on fait des sessions d'information.
Il est à noter qu'aucun des cinq médecins consultés par notre journaliste n'a accepté de répondre à ces questions au sujet de ce médicament.
Bonjour, ici Daniel Aucoin à Chétiquan, en Nouvelle-Écosse. Vous écoutez Point de vue.
L'improvisatrice et humoriste québécoise Cathy Fouaucault vient de compléter sa tournée franco-albertaine. Elle y présentait son spectacle « Mes bananes vertes » dans les villes de Lethbridge, Bonnyville et Fort McMurray. Cathy Fouaucault, qui rêvait depuis toute jeune de visiter l'Alberta, seule province hors Québec avec le Nouveau-Brunswick, sur sa checklist de production. Sa tournée albertaine a en partie été financée d'ailleurs par les associations canadiennes-françaises régionales de Lethbridge, Bonnyville et Wood Buffalo. L'improvisatrice se produira aussi plus tard en France et en Belgique. Un spectacle à moitié improvisé qui relate ses déboires en tant que femme, mère de famille et collègue de travail, le tout sous le trait de l'humour. Un spectacle qui puise aussi ses sources dans des exercices d'improvisation qu'elle mène avec des élèves des écoles primaires du pays. Le spectacle « Mes bananes vertes » a été mis en scène par le comédien et animateur québécois bien connu, Joël Legendre. Vincent Lavoie a rencontré Cathy Foucault pour parler de ses bananes vertes et de sa tournée.
C'est mon premier spectacle complet. Je l'ai écrit. En fait, moi, je n'écris pas comme les autres auteurs. J'ai une façon différente d'écrire. J'arrive pas à m'asseoir et écrire un texte. Moi, je dois jouer le texte. Donc, le spectacle est sur une base d'improvisation. J'ai eu la chance de faire partie de troupes d'improvisation, de prendre des cours d'improvisation. Donc, j'ai toujours été attirée vers ce côté très rapide, imaginatif, de pas avoir rien de préparé et de sauter, de se laisser tomber et de trouver quelque chose pour s'accrocher une histoire. Donc, ça m'a toujours plu. Et mon spectacle, c'est vraiment sur une base d'impro. C'est sûr qu'après, j'arrive, j'enregistre le tout et je l'écris. Mais à la base, c'est toujours de l'impro qui est vraiment la source de l'écriture de mon spectacle.
Et malgré cette base d'improvisation, à quoi peut s'attendre votre public?
En fait, ça parle de bien des choses. Ça parle d'une femme, d'une mère, d'une collègue, d'une amie. Ça parle d'une personne qui, un jour, est tombée et qui a tenté bien que mal de se relever puis qui s'amuse entre-temps. Donc, c'est drôle, c'est touchant, c'est pathétique. Tout le monde s'y retrouve.
Votre spectacle est mis en scène par Joël Legendre, pour ceux qui le connaissent. Parlez-nous de cette collaboration-là.
Quel bel humain qu'est Joël Legendre. J'aime pas dire bel humain parce qu'on est tous des beaux humains, mais lui est extraordinaire. C'est un homme charmant, passionné, bienveillant. C'est vraiment une belle rencontre.
Vous êtes donc en tournée en Alberta. À part un spectacle à Moncton, l'Alberta est la seule province dans laquelle vous faites une tournée hors Québec. Pourquoi?
Mais en fait, c'est l'Alberta qui m'a invitée et je dois vous faire une confidence. Pour moi, l'Alberta, c'est un rêve depuis que j'ai 5 ans de venir visiter parce que j'avais une gardienne italienne qui partait toutes les années, elle partait 8 semaines en Alberta. Et pendant 8 semaines, moi, je pleurais ma gardienne. Et je me suis toujours posé la question, mais qu'est-ce qu'elle pouvait bien voir? Pourquoi l'Alberta m'arrachait ma gardienne pendant 8 longues semaines? Donc, quand j'ai eu la chance de venir en Alberta, c'est sûr que j'ai sauté sur l'opportunité. Ça faisait vraiment là, un hic sur ma bucket list, et ça depuis un bon petit bout de temps. Donc, déjà là, l'Alberta m'appelait depuis tellement longtemps. Donc, j'y suis, j'ai réalisé mon rêve. Je veux dire, ça ne peut pas être plus formidable que ça.
En tout cas, on est honoré de figurer dans votre bucket list.
Ben oui!
Votre tournée se déplace aussi en France et en Belgique. C'est vraiment toute une aventure.
C'est toute une aventure. Je suis tellement reconnaissante parce que j'arrive à les raconter mon histoire. Mais mon histoire, c'est pas juste mon histoire. C'est une histoire que tout le monde peut s'y retrouver. Donc, autant en Alberta, autant au Nouveau-Brunswick qu'en Belgique et en France, j'ai cette possibilité-là d'aller parler aux gens. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux. Merci à vous d'avoir pris le temps de discuter avec moi. Je vous embrasse tous. Bonne journée.
Ici Vincent Lavoie pour IGL à Plamondon.
Bonjour, ici Sébastien Beltran à Halifax. Vous écoutez Point de vue, suivez-nous sur Twitter @CanadaLJI et écoutez nos reportages sur canada-info.ca.
Allez, c'est l'heure de notre périscope, notre tournée en bref de l'actualité au pays. On tente d'accumuler des points de vol et nous prenons tout de suite la direction de Fermont, tout au nord du Québec, où le journal Train d'Union du Nord vient de souffler ses 40 bougies. tout un défi pour ce bimensuel de Fermont et publier sa première édition, brochée s'il vous plaît, le 11 février 1983. Ces publications étaient alors destinées aux citoyens de Fermont, de Gagnon, de Schefferville et de Labrador City. Le journal est maintenant distribué dans chaque foyer fermontois sur une base bimensuelle, à Labrador City aussi, et quelques copies sont toujours distribuées à Schefferville. Ce média local fermontois, créé par un comité de citoyens, a fait bien du chemin depuis sa naissance. On écoute la présidente du conseil d'administration, Louise Vachon. Elle est en compagnie de notre journaliste, Elisabeth Séguin.
Je reçois la présidente du conseil d'administration du journal, Louise Vachon. Bonjour.
Bonjour.
C'est un grand plaisir de te recevoir, Louise. C'est un grand moment pour le journal Le Trait d'Union du Nord, 40 ans. Comment est-ce que ça se prend là, pour l'équipe du journal de célébrer ça ce mois-ci?
On est fiers. On est fiers aussi des premiers pionniers qui ont parti ce journal-là, puis qu'on a réussi à maintenir en vie, puis à faire quasiment exploser. Si on regarde du premier exemplaire à celui qu'il y a maintenant, c'est sûr que le journal a beaucoup évolué, puis on a vraiment changé toutes nos méthodes de travail. C'était 40 ans de, j'appelle ça, de travail à coup de bras, à coup de jus de bras, parce que c'est quand même, on est quand même dans une petite ville. Comme je vais le dire, tous les journaux de presse écrits ont de la difficulté ces années-ci. Le virage numérique, on n'a pas eu le choix de le faire. La plupart des petites municipalités privilégient encore le papier, ça a sa raison d'être. Quand tu as ton journal toute la semaine, tu ne le regardes pas rien que 5 minutes, là. Tu prends le temps, une journée, tu regardes un article, une autre journée, un autre article. Les journaux communautaires encore disent que le papier a encore sa place. On est content parce que il est distribué dans chaque foyer par les casiers postaux, puis on est sûr que chacun va l'avoir, son journal. Nous sommes encore au papier, mais quoique, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver là, avec... C'est sûr que l'ère d'Internet a diminué, nous aussi, notre plateforme publicitaire, puis il faut apprendre à vivre avec ça. Quel sera l'avenir des journaux communautaires des journaux tout court, même, dans 5 à 10 ans? Ça, on ne peut pas le prédire. C'est sûr qu'on est plus de journaux communautaires, il y a plus de compétition présentement, mais c'est pas grave. On sait qu'on a fait nos mains. On aimerait avoir plus de personnes pour évoluer. C'est plus dur parce qu'on n'a pas le financement pour avoir une direction à plein temps. On a juste ce qu'il faut. Notre budget nous permet que d'avoir 3 employés, puis c'est un peu difficile avec les années. Je vieillis un peu en âge, puis j'aime à penser qu'il y a des bénévoles, d'autres bénévoles vont s'ajouter, il y en a présentement, mais j'ose espérer qu'une relève va se manifester et continuer ce j'appelle ça un projet de vie communautaire. Tu sais, le journal, c'est un peu comme une petite famille, là. Puis on va espérer qu'il y a des gens qui vont se joindre à cette famille-là. À travers les années, c'était presque toujours de maintenir un journal communautaire à Fermont. Puis finalement, je pense qu'on l'a fait plus que le maintenir. Il a contribué, il a continué sa mission d'information. C'est sûr qu'il faut s'adapter au virage technologique encore plus pour mieux répartir. Puis un autre objectif plus difficile, c'est encore de rassembler des bénévoles qui vont écrire, travailler, avoir des idées. C'est notre défi pour les années à venir.
Le Trait d'Union du Nord s'est au fil des ans mérité plusieurs distinctions, dont celle du Média communautaire de l'année, remis par l'Association des médias écrits communautaires du Québec. On se dirige vers Penetanguishene maintenant, qui célébrait en grande la 75e édition de son Winterama du 17 au 20 février dernier. Une fête pour toute la famille, bien sûr, avec au programme des courses de traîneaux à chiens, de skidoo, un derby de démolition, de la danse, de la pêche sur glace, compétition de lancement de hache, de la raquette, des tours de chevaux, et évidemment la grande parade de la rue Main. Vous voyez un peu le portrait. Chili et soupe au pois en plus. Le Winterama est le plus ancien carnaval d'hiver en Ontario. Le conseiller municipal de Penetanguishene, Douglas Leroux, fait son devoir de mémoire des propos recueillis par Marc Lalonde.
Je m'en souviens bien de la plupart, d'une grosse partie des carnavals d'hiver à Penetanguishene. Les années passées, le carnaval d'hiver, quand ça a débuté dans les 48, 49... Durant les 50, 60, 70, ça a été des carnavals exceptionnels, des grandes parades. Et puis, dans le temps, on avait les fameuses scouts qui tiraient des courses sur la glace. Dans ces années-là, la plus grosse, une grosse partie du carnaval était permise sur la glace. Malheureusement, avec les années et puis... liability qui est venue avec, on tient peu d'événements sur la glace maintenant. Mais encore, notre carnaval d'hiver subsiste pour 75 ans et puis on a des courses de scout et puis naturellement, les scouts ont été remplacés par les skidoo. Les parades, je peux dire, dans les parades de ces années-là, ils étaient plus motivés. Il y avait plus grosse participation des gens qui étaient intéressés à mettre des floats dans la parade. Et puis, les parades dans ces temps-là, et suit des choses qui ont parti depuis ce temps-là, comme il y avait un Queen Contest qui a pris place pour trois vendredis de suite. Notre ancien Penn Theatre, le monde, la plupart des gens ne se rappellera même pas où était ce théâtre-là, mais c'était dans l'endroit de où se trouve le Kitty Hawk aujourd'hui. Dans ces jours-là, nos hôtels étaient un peu blancs. La Brûlée, c'était un hôtel qui participait, qui avait une salle à dîner exceptionnelle. Ensuite, l'ancienne Commodore était très actif. Alors, avec les années, les choses changent. Il y a des gens qui vont se rappeler que notre légion, la légion de Penetanguishene, dans ces temps-là, il était sur le coin de Peel et puis Simcoe, le lot qui est maintenant vide, là. Il y avait un édifice à deux étages qui était la Légion. Et puis, il faut dire que les fins de semaine du carnaval, c'était une place à deux planchers. Il y avait de la grosse danse, de la musique sur les deux planchers. Et puis, c'était notre salle, le KC, le Knights of Columbus, là, c'est la salle de Chevalier de Colomb. C'était aussi une place qui était très, très active, des grosses danses.
Bonjour, ici Marie Hillès à Ottawa, en Ontario. Vous écoutez Point de vue. Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse se dote d'un fonds de 2 millions de dollars pour faciliter le recrutement de professionnels en santé mentale en Nouvelle-Écosse et en particulier dans la région d'Halifax. La province avait en mars 2022 investi 10 millions de dollars pour inviter les médecins et spécialistes à s'établir en dehors des grands centres. Près d'une trentaine de groupes lui ont tendu l'oreille afin d'obtenir une part de ce financement. C'est le cas du réseau Santé qui a obtenu 73 000 dollars provenant du Fonds communautaire de l'Office du recrutement des professionnels de la santé de la province, le réseau Santé qui se propose de lancer un site Internet pour vendre en quelque sorte la province aux futurs nouveaux venus, à l'image en fait de ce que le gouvernement du premier ministre Tim Houston avait lui-même fait l'an dernier avec novascotia.ca/doctors, mais en anglais seulement. Ce site donc sera bilingue. Adèle Gros-Perrin est postée à Halifax. Elle a pu s'entretenir avec Colton Leblanc, ministre des Affaires acadiennes et francophones.
Notre gouvernement, à partir de l'Office du recrutement des professionnels de santé, à créer un fonds qui est vraiment ciblé envers les communautés de notre province, en considérant et en sachant que nos communautés sont uniques, et vraiment les résidents de nos communautés connaissent très bien les défis et puis les préoccupations de nos communautés. Ils sont très bien positionnés de présenter des solutions. 28 groupes à travers la province ont fait demande pour ces fonds. Le grand total des fonds est à 2 millions de dollars. Alors, le réseau de santé de la Nouvelle-Écosse a reçu un octroi de 73 000 $ afin de créer un site web bilingue pour faire le recrutement de professionnels de santé bilingues pour les soins de services de santé mentale. Ben, je dirais qu'on a une pénurie de main-d'œuvre certainement dans le domaine de système de soins de santé mentale et le système de soins en général, je devrais dire. Et c'est pourquoi une des raisons qu'on a créé cet office ici pour vraiment nous cibler sur le recrutement des professionnels de santé et avoir différents moyens comme l'immigration à travailler avec nos collèges afin de réduire des barrières pour des nouveaux arrivants qui peuvent travailler en Nouvelle-Écosse. Faire la mise en œuvre de ce fonds ici pour vraiment travailler avec nos communautés pour y inclure des solutions menées par la communauté pour effectuer des changements positifs en Nouvelle-Écosse. Et lorsqu'on regarde aux soins de santé mentale, on reconnaît certainement que la communication est un élément très important. Et pouvoir communiquer dans sa langue de préférence est très important. Alors, l'initiative menée par Réseau Santé est un dossier qu'ils ont présenté dans leur demande. Et ça vient vraiment d'une consultation qu'ils ont menée en 2022 avec la communauté qui a identifié que l'accès aux soins de santé en français n'est pas toujours là. Alors, comment on peut mieux répondre à ces besoins? C'est certainement avec le recrutement de nouveaux professionnels de soins de santé bilingues.
Et pour finir, compléter les révolutions de notre périscope, on fait un saut à Yellowknife. Pour un fait inusité, un camion à poubelle, propriété de l'entreprise Cavana Waste Management, chargé de ramasser des déchets ultimes pour la ville de Yellowknife, a pris feu le 3 février dernier. Des braises encore chaudes seraient en cause. L'incendie a été rapidement maîtrisé, heureusement. Le 29 juillet dernier, un autre incendie a été signalé au centre de gestion des déchets solides, mais cette fois en raison de batteries qui avaient été jetées à la poubelle. La ville de Yellowknife rappelle qu'il est important de ne pas jeter aux ordures les braises de nos feux de foyer et les batteries et autres déchets qui pourraient prendre feu, bien sûr, une recommandation qui pourrait s'avérer utile à tant d'autres villes et municipalités au pays. Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. Merci à nos collaborateurs Vincent Lavoie, Elisabeth Séguin, Maxime Gauthier, Raphaël Hamel et Marc Lalonde. Point de vue est une production du Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa. Ici Boris Chassagne à l'animation et à la réalisation. Merci d'avoir été là. Restez à l'écoute de l'émission qui suit. À la semaine prochaine.
Adèle à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Vous écoutez Point de vue.